Bonjour, je suis Vincent Co et vous écoutez La Voix des Bulles.
Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel en zone de guerre.
Voilà, c'est bon, on l'a fait.
Ouais, tu l'as fait. Oui, bon, hein, y a eu beaucoup de bouleversements depuis le Festival des Calanques et des Bulles. Je suis entre les couches.
Papa !
Voilà.
Bah, pas encore, hein, parce que ça parle pas, mais...
Voilà, non, ça parle pas encore, mais ça a déjà de la voix.
Ouais, on dirait un alien.
Ouais, alors tu rigoles, mais vu qu'il va bientôt être dans mon corps, on rigolera moins.
Hey, deux mois !
Voilà.
Mais moi, ce sera un guerrier.
Ouais, moi, c'est une guerrière. Donc, un programme assez chargé, parce qu'en fait, on a pris un peu de retard sur les dernières émissions, avec tous les derniers événements.
Non, du tout.
On a une pile de BD assez monstrueuse. Programme classique, hein, pour cet épisode 53. On va commencer avec les news avec Merton, comme d'habitude, qui vont être captivantes, d'autant qu'on les a pas encore enregistrées. C'est un peu pour gâcher le mystère de comment marche l'émission, mais on le fera tout à l'heure. On a plein de sujets. En plus, maintenant, il y a Matt qui nous propose quelques news vis-à-vis du manga. Il y en a des très intéressantes. On verra comment gérer ça. On passe ensuite sur de l'Express, où on va rattraper tout notre retard de kiosque. Et il y en a du retard de kiosque au niveau des comics. Puis, notre rubrique dans les bacs avec Ling Ling, l'homme qui n'existait pas, et Élise et moi, d'actualité. La splash page de Thio. Normalement, c'est la mienne, mais on a dit qu'on allait mettre celle de Thio d'abord parce que.
Bah parce qu'en fait, toute la sienne est toujours pas prête, c'est surtout ça, je crois.
Non, mais c'est surtout parce qu'on a une chouette interview de quelqu'un de vraiment chouette et que ce serait dommage de pas la mettre.
C'est ça.
Voilà. Avec, soit dit en passant, de Vincent Co. Et on finira par notre online, qui est une sélection fantastique que vous allez apprécier grandement, j'en suis sûr, quand je l'aurai trouvé. Mais d'ici la fin de l'émission, ce sera fait. Et on va pouvoir démarrer de suite, à moins que tu aies quelque chose à dire, une connerie, une blague.
Arrête, ça va, je suis vachement sérieux là. Déjà que entre deux poussettes et un biberon, c'est bon quoi. Merci pour la place.
C'est les news.
Bonjour Merton.
Hello Pied, comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. T'as vu un peu, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé pour parler BD.
Ah non, mais on est tous surbookés là.
Ah, c'est ça.
Hein. Ça fait bien plaisir.
Oui, il y a des surbookings plus sympas que d'autres. Donc on va essayer de nous faire notre petite news comme d'habitude. Il y a pas mal de sujets plutôt intéressants. Et on va commencer par donner, parce que tu sais que j'aime bien te piquer la vedette à chaque fois, les résultats de notre concours du numéro 50. Alors toute l'équipe du 1A Club a voté pour désigner qui seraient les grands gagnants de ce concours. On mettra les images en ligne, je devais le faire plus tôt, mea culpa, mais j'étais un peu surbooké. Nous avons reçu donc... des images qui viennent... En fait, on avait une parodie d'une pub Evian et une galerie de plein de personnages mis en vert version 1A Club qui ont chacun eu un seul vote, malheureusement. Donc, ce ne seront pas nos grands gagnants. Nous en sommes fortement désolés. Mais on peut tout de même saluer le travail de Boris Chaplot et celui de Arnaud Barthès.
Moi, ces deux-là m'ont bien fait... Enfin, j'ai bien aimé la galerie, surtout, tout en vert et tout. Enfin, vous verrez de toute façon les images, mais c'est très...
Ah non,
très
mais attends, je dis une bêtise. La galerie, ils ont eu plus de points. C'est toi qui leur en as donné plein, en fait.
Ah oui, c'est moi qui leur ai donné.
Ouais, non, ils sont pas derniers, la galerie. C'est la pub Evian, désolé. Ensuite, juste derrière, nous avons un superbe travail de parodie de l'affiche Mega Upload... je ne sais plus, même plus ce qu'il a dit en fait. Mega Upload, ok, voilà, le 1A Club, jamais. Voilà ce qu'il a donné, c'est une affiche que... Alors, malheureusement, je ne connaissais pas la référence, donc je passe pour une buse, mais bon, je suis désolé, je suis vraiment une buse.
Non, mais je pense que les internautes connaîtront, c'était une banderole qu'il y avait eu dans un stade lors d'un match de foot et qui revendiquait le fait qu'un site très connu ne devrait jamais fermer comme Mega Upload.
Oui, c'est vrai.
C'était très marrant, j'ai beaucoup aimé moi celle-là.
Ensuite, nous avons... Notre deuxième place, nous avons un Chuck Norris, un beau Chuck Norris, par François Duclé-Mortier, très sympathique, qui fait l'apologie du 1A Club, comme quoi Chuck connaît déjà le programme du centième épisode.
Non mais je suis sûr que Chuck écoute régulièrement.
Ouais, ouais.
C'est évident.
Non, non, c'est nous qui...
que...
non, non, c'est nous qui écoutons Chuck.
Mais je pense qu'il aurait pu gagner s'il n'avait pas mis ce dé en trop. Et ça, c'est vraiment.
Ah, petite faute, etc. Mais bon, il faut admettre que le podcast n'a pas le nom le plus glamour
le
du
plus
monde.
Simple. Oh, bah, et puis le plus simple voilà. À retenir.
Voilà, c'était en Nicolas cas... Honoré, le truc méga upload. Carotte, je t'en prie, pardonne mes excuses de toute la main. Et enfin, le grand gagnant. Alors, je pense qu'il a été grandement aidé parce que. Il a aussi une certaine qualité, ce monsieur, c'est qu'il sait dessiner. Et donc, ouais. Il nous a fait un très, très joli travail, très joli, un très joli strip. C'est donc Jeff qui a son site. Allez, je fais la pub pour le coup. Illustration de jeffblogspot.com. Donc, non seulement il sait dessiner, mais en plus, j'avais trouvé son gag vraiment gore et débile. Moi, c'est le genre de truc qui m'amuse. Il n'y aurait eu que le dessin, il n'aurait peut-être pas forcément gagné parce que l'idée était importante, mais l'idée m'a beaucoup plu aussi derrière. Donc, loué sois-tu, Jeff. Tu recevras bientôt un gros colis avec plein de BD, plus ou moins bien dedans.
En tout cas, bravo, hein, parce que ouais. C'est super, super chouette.
On passe maintenant aux vraies news. Et puis on va parler de notre partenaire Bad Geek qui sera à la Comic Con. Alors moi je pourrais pas y être parce que je vais changer des couches. Et donc Bad Geek en fait sont aussi en train de chercher un petit peu des financements pour faire leur plus beau stand possible imaginable. Ils ont un superbe projet très 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 joli. Sauf que ça coûte des sous tout ça. Donc si vous voulez leur donner un coup de main, vous allez sur badgeek.fr. Tout en bas de la page, il y a un petit lien pour leur faire des dons. Vous leur donnez 1, 2, 3, 5 euros ou plus si vous pouvez. Mais ils font aussi des produits dérivés, t-shirts et compagnie. Si vous voulez pas leur donner des sous sans rien avoir en échange. En tout cas, eux, ils nous diffusent. Ça nous fait toujours très plaisir qu'un maximum de monde puisse nous entendre dans le monde entier.
Ça, c'est la conquête du monde. Ça passe par là.
On passe maintenant aux anniversaires.
Ouais, des anniversaires.
Ouais. Donc, deux anniversaires qui sont liés au même éditeur. Nous avons Christophe Cazeneuve qui fête ses 20 ans de scénariste.
C'est ça.
20 ans de
scénariste. C'est long.
C'est long, 20 ans de scénariste. Hein.
Ouais.
Et donc, il y a un concours qui a été lancé par les éditions Bambou pour devenir le prochain dessinateur de Christophe Cazeneuve. Alors, on peut... en fait, en général, les critiques de bande dessinée ne sont pas très, très, très gentils avec Christophe Cazeneuve.
Ouais, oh, ça, c'est toujours, pareil.
Bah, il fait de la BD, comme on l'a dit assez vulgairement, de la BD de supermarché. C'est-à-dire, je vais manger chez un copain prof, et encore, c'est même pas lui qui fait les profs, je crois, je sais plus. Et je vais lui offrir une BD, enfin, c'est les trucs à thème, etc. Maintenant, je trouve que, il fallait que ce genre de BD existe. C'est une très bonne chose pour faire connaître la BD et qu'il y en ait un peu plus dans tous les foyers. Et puis en plus, je trouve qu'il faut surtout saluer le travail de Bambou, qui est en train de se diversifier et de proposer des bandes dessinées de plus en plus intéressantes, et de s'éloigner un peu. En gros, on a l'impression qu'ils se sont fait un petit trésor de guerre avec la BD de supermarché, et que maintenant, ils se font plaisir à essayer d'aller un peu plus loin et de proposer des choses un peu plus... d'un niveau un peu plus élevé, on va dire.
Moi, je pense que leur catalogue a toujours été quand même un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la BD qui va marcher. Enfin, les profs, c'est un énorme carton, par exemple. C'est vraiment une des meilleures ventes. Ça. C'est énorme. Et puis, grâce à ça, on peut aussi aller explorer d'autres choses. Quoi. Et Bambou, ouais, moi, je trouve aussi qu'ils font vraiment du boulot de mieux en mieux. Quoi. Et je suis aussi fan de Grand Angle, ce qu'ils font à côté. Donc,
qui, justement, a aussi 10 ans.
Eh ouais, c'est 10 ans de Grand Angle. C'est, ouais. Moi, c'est, j'ai pas peur de le dire. Hein. Grand Angle font vraiment parmi mes BD préférés, quoi. J'aime beaucoup l'univers qu'ils abordent dans cette maison d'édition-là, quoi.
Ouais, puis ils se sont un peu diversifiés. Ils avaient un côté très historique, ouais. Qui commence à être un peu plus large. Enfin, j'ai l'impression qu'ils commencent à toucher un peu plus au polar. Et pour les 10 ans de Grand Angle, ils lancent un grand, grand projet d'une série à suivre. Où apparemment, donc t'as plusieurs scénaristes de chez Grand Angle hein, qui se sont mis dessus pour faire une intrigue à suivre sur des personnages en fait qui dans leur lignée, d'ailleurs ça s'appelle la lignée, savent qu'ils vont tous mourir le jour de leur je ne sais plus quel âge, de leur 33 ans, voilà. Et donc tu vas suivre plusieurs BD, donc il y a 6 tomes de prévus si je me trompe pas, je dis peut-être des bêtises, j'ai plus le dossier de presse sous les yeux.
Je crois que c'est ça aussi, mais j'avoue que j'ai plus le dossier non plus sous les yeux.
Et le projet est intéressant, ça permet de un peu réunir tous les auteurs de Grand Angle qui ont vraiment écrit à plusieurs l'intrigue générale et se sont ensuite chacun intéressé plus à une des périodes pour faire avancer toute l'enquête autour de ça, avec bien sûr le 33 ans, mais il n'y a pas un personnage célèbre qui est mort à cet âge-là. Ouais,
évidemment.
Voilà.
Mais,
c'est peut-être
mais
une fausse piste.
Non, mais oui, ça, ils sauront toujours, de toute façon, nous envoyer un peu partout. Mais aujourd'hui, je trouve que Grand Angle va de plus en plus vers ce... Bon, ils disent la BD comme au cinéma, etc. Et je trouve qu'on y est de plus en plus, en fait, là, dans leur collection. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment une collection à suivre, en fait.
Enfin, si voilà, donc bah, ça, déjà... Vraiment... À saluer le fait qu'avec tous les éditeurs qui ont du mal à tenir, qu'un éditeur arrive à tenir aussi longtemps, c'est plutôt une très 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 bonne chose.
C'est ça, exactement. Parce que quand on voit le rapport, la DU9, enfin, on va en parler, mais bon.
News du numérique, on a l'appli des BD Buzz qui arrive sur iPhone et qui s'améliore. Alors, je ne sais pas ce que ça donne exactement. J'avais testé vaguement sur Android, j'avais pas été totalement satisfait. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements entre-temps.
Ils évoluent pas mal hein, chez BD Buzz. Hein. On sent qu'ils ils sont très actifs et ils essayent, ils y vont.
Oui, je les avais croisés à Angoulême et on sentait des gens qui n'en voulaient quoi, qui voulaient faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, ont-ils leur chance au milieu de tous les autres gros qui se lancent dessus? Vont-ils s'en sortir, ne pas se faire bouffer? En tout cas, c'est des initiatives à saluer d'avoir des applications qui essaient d'être de plus en plus qualitatives.
Ouais.
Les Humano et les Rêveurs arrivent chez Isneo.
Alors ouais, les Humano c'était fait, c'est en cours en tout cas, ça avait été annoncé. Et là on a aussi les Rêveurs qui ont dit qu'ils arrivaient chez Isneo.
Alors là on a un gros et un petit quand même.
C'est ça, alors les Humano, ouais, c'est moyen gros, ouais, voilà.
Ah, c'est Rêveurs. Quand même les Humano, ouais, c'est gros, c'est l'éditeur qui vient de Metal Hurlant quoi.
Les Humano c'est vrai qu'en termes de réputation c'est énorme, même si c'est pas en termes de nombre de BD produites. Un gros mastodonte. Et là, les Rêveurs qui arrivent chez Isneo. Alors moi, j'avoue, je suis plus trop, parce que enfin, on a Glénat, Delcourt qui s'en vont, puis des petits qui arrivent. Je me demande ce que ça va donner, en fait, Isneo dans les mois ou dans les années à venir. Je sais qu'ils innovent vachement, qu'ils essayent de faire des abonnements, des choses comme ça pour qu'on puisse lire de la BD, genre toute l'année, on peut louer des BD et tout. Mais je sais pas. Là, c'est-à-dire que quand on voit tout ce qui se passe aux États-Unis avec le transmédia, avec tout ça, et il y a des choses un peu différentes, je me demande vraiment, quoi, si les éditeurs ont vraiment compris.
Enfin, quelques brefs très rapides au niveau du manga. Katsuhiro Otomo veut lancer une nouvelle série. Ces derniers temps, il faisait que de l'animation. Qu'est-ce que ça vient pouvoir donner?
Aucune idée.
Eiichiro Oda annonce qu'il voudrait arrêter sa carrière une fois qu'il aura fini One Piece. Je pense qu'il pourra avec les sous qu'il a. Maintenant, il n'a peut-être pas prévu d'arrêter tout de suite.
Ouais, il aura sûrement 80 ans. Hein, s'il fait comme Toriyama, qui fait du Dragon Ball à gogo depuis des années, c'est peut-être pas de mal à veiller quand même.
Bakuman, la fin est annoncée après le 20e volume. C'est peut-être déjà beaucoup pour ce genre de série. Très bonne série en tout cas sur la vie de mangaka.
Exactement.
Et le gros morceau, il est pour toi, c'est du neuf qui vient de publier sa numérologie par Xavier Guilbert, qui est toujours un très 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 gros morceau, qui sort un peu plus tard cette année parce qu'il a pris son temps pour faire une belle compilation et une belle analyse de chiffres. Mais qu'est-ce que c'est donc cette numérologie, Merton?
Alors, numérologie, ça dissèque le marché de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on a toujours des chiffres, on a toujours pas mal de choses un peu partout. Mais là, on a, je dirais, un document vraiment de référence, parce qu'il est extrêmement bien fait, qui donne une photo du milieu du marché de la bande dessinée. Et alors, vous vous en souvenez peut-être, mais à Angoulême, on nous disait la BD, c'est le secteur qui résiste à la crise, plus 12% de chiffre d'affaires, tout va bien, tout est formidable, etc. Je me souviens qu'avec Pierre, on vous avait dit, mais non, mais peut-être pas tout à fait. Enfin, c'est un peu plus compliqué. On en avait parlé. Voilà. Et là, quand on lit ça, on se dit, bah oui, non, ça va pas vraiment si bien que ça, quoi. Parce que, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de lecteurs adultes de bandes dessinées, déjà. C'est-à-dire que c'est vraiment la BD jeunesse. C'est vraiment là, il y a beaucoup de jeunes qui lisent. Mais on est à 9% de lecteurs réguliers de bandes dessinées, 9% de Français. Donc, quand on voit le nombre de sorties BD pour 9% de Français, on peut se poser quand même des questions.
Moi, j'ai pas pu le lire encore. J'ai pas eu le temps. Par contre, est-ce que c'est juste une analyse factuelle ou est-ce qu'il y a des propositions de prospective sur ce que devraient tenter peut-être comme orientation les éditeurs pour être en phase avec le marché actuel?
Non, pas du tout. Non, c'est vraiment très très factuel en fait. Ça, après, je dirais, c'est à chacun ensuite de voir midi à sa porte. Mais là, c'est vraiment, il récupère tous les chiffres, il fait quelque chose de très très carré, très factuel. Et puis moi j'aime bien aussi ce genre de choses où on a juste les chiffres et un peu à chacun de se faire sa propre opinion là-dessus. Je pense qu'on pourra même en discuter dans les commentaires. Mais par exemple, un truc tout bête, il nous dit que le prix de la BD, les éditeurs nous ont dit oui, si les prix montent, c'est parce que le prix du papier a vachement monté, tout ça. Et quand on regarde vraiment les prix du papier, bah, c'est juste remonté au niveau de 2002, quoi. Ils nous ont dit les prix a monté, c'est vrai, mais le prix avait énormément baissé avant, sans que le prix des BD baisse, quoi.
D'accord.
Donc voilà, c'est-à-dire que là, on se retrouve avec une hausse des prix, alors que le papier est au même prix qu'il y a 10 ans. Et entre mais comme les BD se vendent plus, et ça, il y a aussi des chiffres hein, qui prouvent que, par exemple, le dernier, c'était le dernier 13 là qui est sorti il y a pas longtemps, sorti à 500 000 exemplaires et 128 000 ventes, quoi. Et
c'est ouais, enfin bon, le dernier 13, quoi.
Oui.
Les lecteurs de 13 se sont peut-être aussi dit que fallait lire autre chose.
Bah peut-être, mais en tout cas c'est la première fois que les meilleures ventes sont aussi basses en fait sur les 50 premières ventes. C'est la première fois que c'est aussi bas que ça depuis des années quoi. Donc ça pose aussi des questions quoi.
Il parlait aussi, il me semble, d'une grosse montée du comics.
Alors, en fait, il dit surtout que le manga, ça a stagné. Il y a eu des années fastes. Les éditeurs ont pu vendre plein de mangas parce que le marché est encore à prendre. Et qu'il est en train de se passer à peu près la même chose avec le comics maintenant. Parce que, gros films de super-héros qui ont un peu rendu le genre connu des Français. Et les éditeurs qui se mettent à fond dedans, quoi. On le voit, Glénat, Dargo, ils ont tous maintenant leur branche comics, quoi.
C'est des branches pas forcément super-héros. Donc, c'est pas forcément lié aux films de super-héros.
Non, c'est pas. Non, mais ça fait que les gens se sont intéressés aux comics qui n'étaient pas forcément connus. C'est toujours pareil. Il faut toujours une porte d'entrée, quoi. Les films.
Il y a peut-être aussi les films en ciné indé qui mettent en valeur des œuvres de comics. Je pense à History of Violence dans un film qui maintenant est plus tout jeune, mais bon, qui te montrait que la BD américaine pouvait être autre chose que des gars en slip moulant.
C'est ça, non, mais puis c'est aussi tout. Enfin, le comics, ça va avec la culture geek qui commence à devenir un peu plus. Voilà, c'est ça. Je voulais pas utiliser ce mot, mais voilà, si même Cyprien fait des vidéos sur les geeks, c'est que tout le monde connaît maintenant. Donc,
ce qui est bien, c'est que je ne sais pas qui est Cyprien.
Ah, ouais, tu chercheras sur l'internet, tu comprendras. Voilà, et donc là, voilà, les éditeurs se tournent vers le comics aussi pour juguler un peu les pertes qui commencent à engranger, que ce soit sur le franco-belge, parce que même leurs catalogues se vendent de moins en moins, et sur le manga où ça commence à stagner assez, enfin bien quoi. Là, on est sur vraiment une pointe au niveau du marché quoi.
Il commence à avoir des chiffres sur les expériences soit numériques, soit de coédition, genre à la MMCBD, etc. Ou pour le moment, c'est pas encore vraiment présent dans.
Alors il y a pas de chiffres. Il y a un paragraphe sur justement la frontière numérique, mais qui évoque surtout ce qu'on dit tout le temps, hein, c'est-à-dire que les éditeurs, les auteurs savent pas vraiment comment y aller, que c'est tendu et qu'ils essayent des trucs, mais qu'il y a rien. Il n'y a rien vraiment, pas de business model, pas grand chose. Et surtout, il n'y a pas de volonté des éditeurs, alors que aux États-Unis, ils viennent chercher les petits Frenchies pour faire leur cross-média, etc.
Balak, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une grosse news quand même. Balak, donc, qui faisait du Turbo Média, qui est un des co-créateurs du Turbo Média, tel qu'on le veut dire, et qui s'est fait débaucher, hein, plus qu'embaucher, ouais, débaucher par Marvel Comics pour bosser sur leur branche multimédia, transmédia. Voilà.
Ils sont en train de monter un gros projet là, Marvel, sur le transmédia, donc avec Balak. Et voilà, c'est-à-dire que nous, on avait le talent en France, mais on n'avait juste pas la volonté et les éditeurs n'ont pas pris ce cap-là, quoi. Et il y a tout un truc, c'est voilà, le piratage. Voilà, le seul truc, c'est comme de toute façon en France, de la BD numérique, c'est BD numérisée. C'est pas de la BD numérique, on fait de la BD numérisée. Oui. Du coup, ils ont juste peur qu'on les pirate.
Il y a un peu de BD numérique quand même, mais.
Non, mais il y en a bien sûr. Mais je parle par les éditeurs, hein, point de vue éditeur. Parce qu'il dit aussi, la BD numérique, elle est faite par les auteurs. Parce que quand on voit les autres gens, c'est par exemple, qui est vraiment, à mon avis, la BD numérique telle qu'on peut l'entendre, là, c'est fait par les auteurs qui ont rien, quoi. Enfin, qui n'ont pas d'aide des éditeurs, au moins au début du projet. Puis après, ça a commencé
même pas du Centre National du Livre.
C'est ça. Par contre, Centre National du Livre qui a donné plein de sous à Isneo, et Isneo qui se lézarde complètement vu que Glénat, Delcourt sont partis, et on voit pas très bien où ça va aller cette plateforme, quoi. Et vu que c'était censé être la plateforme BD, et on voit pas où ça va, quoi. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est vrai que nous, on en parle souvent dans le One Eye Club, et moi, j'ai retrouvé un peu ce qu'on dit régulièrement, quoi.
Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il se passe pas en France ce qui a pu se passer aux États-Unis, c'est d'avoir quelqu'un qui propose une solution technique, donc c'est Comixology aux États-Unis, et tous les éditeurs qui ont acheté la solution Comixology pour faire leur propre plateforme de vente, donc chaque éditeur a sa plateforme, mais avec des interfaces qui sont très très proches, une façon de s'y retrouver très très proche, ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait fonctionner.
Ouais, c'est ça, mais là, Glénat et Delcourt vont chez Hachette parce que gros accord de distribution aussi bien en librairie qu'en numérique. Bon, voilà.
Et dis-moi, Hachette, ils n'ont pas revendu une de leurs boîtes qui faisait de la diffusion, justement?
Alors ça, j'en sais, j'ai pas
suivi. Oui, alors ils ont revendu une boîte qui faisait je crois que c'était BDNUM, un truc comme ça, ouais. Qui était la grosse boîte qu'ils avaient rachetée pour bosser sur la diffusion, etc. Et en fait, ils ont annoncé qu'ils l'avaient revendu après que Delcourt soit cassé chez eux.
Ah, d'accord.
Et donc, je ne sais, et à ce que j'avais cru comprendre, Delcourt allait chez eux pour cette solution, entre autres.
Ouais, d'accord. Ça, j'avoue que j'avais pas trop suivi, comme on le disait, on était sur bouquin. Mais enfin, moi, je vois pas du tout où ça va, parce que aujourd'hui, enfin, c'est vraiment ça. On a de la BD numérisée, la BD numérique, elle est faite, mais je dirais à côté des éditeurs. Les éditeurs, ils sont pas dans ce qui se fait en BD numérique, que ce soit la revue dessinée, Professeur Cyclope, etc. Qui
non, sont mais sans, comment ça sans, va sans aller jusque là, même en BD numérisée, il y a pas de solution viable à l'heure actuelle.
Ah ouais, non, mais il y a rien.
Alors moi, coup, déjà avoir quelque chose qui permettrait de fonctionner en BD numérisée, effectivement, ça permet de fonctionner sur un gros fond qui est bien foutu. Mais une fois que tu as trouvé une solution pour la diffusion de la BD numérisée, qui convienne aussi bien aux auteurs, aux éditeurs, mais en fait, les éditeurs, je pense que c'est eux les plus durs à convaincre, en fait, de ce qu'ils doivent lâcher, et aux lecteurs. Après, tu peux peut-être commencer à réfléchir à des trucs un peu plus expérimentaux, parce que pour moi, la BD numérique est encore une bande dessinée qui se cherche une forme, qui peut en avoir tellement de nombreuses, qui n'a pas trouvé de norme encore, ce qui est une chose intéressante, hein, mais on est encore dans l'expérimentation.
Ouais, c'est tout est à défricher de ce côté-là, quoi. Mais en tout cas, enfin voilà, si vous avez un peu de temps, vraiment, allez voir ce rapport, et on peut en discuter dans les commentaires, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, et ça peut ouvrir un débat absolument passionnant.
Oui, oui, si vous pensez qu'on a dit que des conneries, que votre analyse est totalement différente, on prend. Bah,
n'hésitez pas à nous lyncher, hein, il n'y a pas de souci. Hein.
Ouais, on est là pour ça, se faire lyncher. Ouais. Voilà, on prépare les cordes à l'entrée de la maison.
Ouais!
Merci à vous d'avoir écouté Burton, et puis un peu moi quand même pas mal, j'ai tendance à beaucoup prendre la parole, je suis désolé.
Oh ben non, mais au contraire, c'est toujours bien.
Ouais, oh, merci, je suis touché. et donc, bah, on te retrouve le mois prochain pour encore de nouvelles aventures.
Bien sûr, à bientôt, ciao ciao. Ah.
Alors, Express. Ah non, mince, c'est vrai, on a des jingles pour ça.
Ça fait un moment maintenant.
Il faudrait vraiment que j'écoute l'émission, dis donc.
Ouais, un jour.
Express.
Donc, on commence avec Batman Universe 10 et Batman Showcase numéro 1. Il faut savoir que Panini Comics a perdu les droits de DC Comics. Et donc, bah, maintenant, c'est Urban Comics, qui est en gros une nouvelle maison d'édition, mais entre guillemets sous la houlette de Dargo, parce qu'il reste assez indépendant, qui ont repris les titres DC Comics. Bon, Batman, on les lit, on aime bien en général. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de montrer comment est-ce qu'on passe d'un éditeur à l'autre. La dernière fois que c'est arrivé, c'était Semic qui s'était fait éjecter au profit de Panini. Ils ont la bougeotte hein, chez DC au niveau de leur cessation de licence.
Ouais.
Donc, on commence par le Batman. Bon, en gros, dans les deux titres, c'est facile. On va avoir dans le... ils se suivent. On a le début de la série Batman Incorporated dans Batman Universe, la suite de la série Batman Incorporated dans Batman Showcase. Batman Incorporated, c'est la nouvelle série avec Batman Bruce Wayne.
Le vrai, le retour.
Voilà, vu que les autres séries de Batman, c'est pas Bruce Wayne, c'est Dick Grayson. Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Parce qu'en gros, Batman a dit « Hey, maintenant, officiellement, Bruce Wayne soutient Batman, il est son sponsor, et on va essayer de créer des filiales de Batman, entre guillemets, des licences. Il va mettre Batman sous licence pour le licencier un peu partout dans le monde. » Et donc, on se retrouve avec plein de personnages du monde entier. qui donc on découvre leur vie, leur fonctionnement et le fait qu'ils aient souvent déjà eu des relations avec Batman, car Grant Morrison, qui est au scénario, s'éclate énormément à aller chercher des références obscures à des personnages qui sont apparus un jour dans une BD de Batman des années 60 pour en faire quelque chose d'à peu près intéressant. Niveau du scénario, moi j'ai dit que c'était ambitieux, un petit peu trop, je trouve, parce que parfois il va un peu trop loin. Par exemple, je pense au dernier épisode du Batman Showcase où il parle du Web 3.0 là, où en plus ils ont fait appel à un dessinateur qui nous fait un truc en image de synthèse des années 90. Ouais, bof. Moi ça m'a un petit peu perturbé le dernier. Il essaye d'ailleurs. C'est très intéressant cette façon qu'il a de gérer l'univers de Batman. Il a fait un très très beau boulot dessus depuis le début. Mais parfois, il est un peu trop ambitieux, j'ai l'impression, et qu'il s'y perd un petit peu.
Totalement.
Fait... Oui, ok. Ton avis.
Je trouve que moi, c'était assez narratif. Tu suis, mais sans aucune passion, quoi. Enfin, ça m'a pas emballé. Le Batman n'est pas assez dark pour moi, quoi. Il n'est pas assez méchant.
Moi, j'ai bien aimé les passages de comment. J'ai bien aimé les passages où il y a l'ambiance aussi, parce que quand il va, par exemple, au Japon, forcément avoir un monstre qui est un poulpe gigantesque, j'ai trouvé ça très rigolo. Quand il se retrouve au Mexique, enfin, à chaque fois, je trouve que les thématiques sont très très bien respectées vis-à-vis des personnages. Et Batman s'efface un petit peu par rapport au nouveau Batman de chaque endroit. Il est juste là pour leur mettre le pied à l'étrier et essayer de les embaucher, parce qu'ils sont pas tous d'accord hein, en général.
Oui, non, c'est clair, mais bon, en plus, là, ils sont en train de nous faire un nouveau méchant, Léviathan.
Ouais, c'est ça pour ça l'Hydra, hein, moi, tel quel.
Exactement, ouais, tout à fait.
C'est-à-dire l'organisation de gros méchants super balèzes. On n'en sait pas trop dessus.
En fait, personne n'en sait rien.
C'est le fil conducteur, c'est le fil rouge. Et c'est lié apparemment au passé de Batman, parce qu'il arrive à retrouver des liens entre certains des nouveaux Batman, genre Al Gocho là, et Batman, mais sur des BD, mais qui datent d'il y a... Ouh
oui, c'est ça. Alors ça, par contre, je pense qu'il doit y avoir... Soit il y a un travail encyclopédique de Grant Morrison.
Il y a un travail encyclopédique de Grant Morrison.
Ou alors, c'est que le monsieur est un ordinateur, en fait. Il se rappelle de tout, mais...
Un jour, j'aurai le temps de finir le comic box où il t'explique tout ça.
Ah, celui qui doit me passer depuis presque deux mois.
Voilà. Quand je commencerai à lire le... Je passerai le suivant, d'abord, comme ça...
Cool, ça sera vite cool.
Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Maintenant d'un point de vue et
juste d'un point de vue du dessin. Alors j'ai trouvé que ça c'est vraiment efficace dans le dernier Batman Panini.
Ouais, c'est qui déjà, vas-y.
Et par contre moi ça m'a fait un petit peu, alors un peu rétro dans la grande partie du showcase. Bon, c'est sûr qu'il y a la fin en image numérique qui fait pas rétro, hein, mais
Si elle fait rétro, elle fait futur, BD du futur des années 90. Futur.
Ça fait penser à Tron en fait.
Ah ouais, mais en plus moche quoi. Tron, ça a mieux vieilli, je trouve. Bah en fait voilà, sur le Batman Universe, t'as Yannick Paquette au dessin qui est un putain de bon dessinateur. Moi j'aime beaucoup Yannick Paquette. Les dessinateurs sont un peu plus à l'ancienne dans le suivant. Tu retrouves
Chris Berman et Scott Clark.
Voilà, et Scott Clark. Oui, ça c'est le moche.
Ça c'est le moche numérique.
Voilà, mais l'autre, c'est... Non, Chris Burnham, c'est le pas moche numérique. Chris Burnham, ça fait ancien, ça fait penser un peu à Brian Hitch, des personnages un peu carrés, un petit peu, voilà.
Alors, donc après, oui, en fait, il fallait que tu donnes ton mot donc pour le début, le petit résumé qui est au début.
Alors,
donc,
d'un
Batman,
point de vue éditorial,
le disait Bruce Wayne.
On a déjà parlé du côté éditorial. Je trouve déjà que les couvertures sont bien plus agréables chez... étaient plus agréables chez Panini. Ça, c'est pas dire, ça fait un peu carton pourri chez...
Ben, surtout quand tu vois que voilà, il a un petit peu vécu tes lectures et mes lectures. Celui de Panini est toujours nickel. Celui de Showcase est déjà défoncé.
Voilà. Bon. Après, tendance à dire que quand même, celui de Showcase, pour le même prix, j'ai l'impression que tu en as un peu plus dedans. J'ai pas vérifié, mais non, tu dois en avoir pareil, je dis des conneries.
94 pages.
Ouais, là, on doit tourner à... Il n'y a pas les numéros de pages, donc on s'en fiche. Par contre, d'un point de vue éditorial, je trouve qu'il y a un grand plus chez... Chez Urban Comics, ils ont vraiment essayé de donner des infos, c'est-à-dire qu'avant chaque BD, on a vraiment des infos pour nous remettre les personnages dans le contexte, qu'on sache qui est qui et d'où ils viennent, ce qui est vachement bien, parce que le travail encyclopédique de Grant Morrison mérite, quand tu débarques sur la série, d'avoir un petit coup de pouce pour te rappeler.
Une petite explication, c'est sympa,
voilà,
c'est clair.
Pour le coup, ils écrivent beaucoup plus petit, mais ça, c'est pas très grave. Par contre, là, il y a une double page qui nous rappelle l'histoire proche de Bruce Wayne qui a été maquettée par un mec avec les pieds dans le cul. Je veux dire, c'est assez atroce. Ce qui est dommage parce que ça jure par rapport à la qualité de tout le reste du magazine.
Alors là, ça ne touche a priori que les personnes qui sont un petit peu dans les maquettes. Parce que moi, je t'avoue que...
Attends, tu fais ça avec Ward en claquant des doigts hein.
Oui. Ouais, mais enfin, moi, que je t'avoue, enfin, moi, vu que je m'en fous, en fait,
Ouais, non, mais ça manque d'air.
Voilà,
ça,
toi,
ça,
toi,
tu respires pas. C'est
toi,
pas,
c'est la touche pro, en fait.
C'est pas agréable.
Tu le regardes et tu te dis, oh, c'est moche. Oui, mais enfin, pour le commun des mortels, je pense que ça passe à peu près tout seul. Hein.
Oui. Enfin, moi, ça m'a choqué. Par rapport au reste de qualité du magazine. Donc, Batman Showcase, bah, je pense que Urban ont fait un très très bon boulot qui méritait, qui vaut le détour. De toute façon, on va continuer à lire Batman. On vous en reparlera plus tard.
On est obligé. La mort de Spider-Man.
Enfin. Enfin, ça arrive parce que.
Oui, parce qu'on l'a déjà vu dans Avenger.
Voilà, et puis il nous raconte, ça fait un moment qu'il nous l'annonce, c'est prélude à la mort de Spider-Man. Ouais. C'était l'agonie jusqu'ici, maintenant c'est la mort pour de vrai.
Ça y est, là, il est dead.
On va vous parler de donc, Ultimate Spider-Man numéro 11 et 12, parce qu'on a eu les deux. Le 12 était dans un joli sac noir, genre body bags. Au dessin, on retrouve Chris Samnee pour le début et Mark Bagley pour la suite, qui est revenu pour finir le titre, hein, qu'il a co-créé avec Brian Bendis, qui est toujours au scénario de la série. Que dire sur le dessin? On peut aller très rapidement. J'ai trouvé que c'était amazing.
Épique.
Et sur le scénario, j'ai trouvé que c'était spectaculaire. Et
j'ai dit génialement américain.
Voilà, mais non, moi j'ai utilisé des termes, tu sais, genre clin d'œil aux séries originales.
Excuse-moi, mais là je comprends pas l'anglais en fait.
D'accord. Bon, en gros, on est dans du blockbusters. Ah, ça pète dans tous les sens. C'est-à-dire que Bendis nous prend le côté intimiste qu'il avait mis dans sa série et d'un coup il fait tout éclater d'un coup.
Ouais.
Et ça pète.
Ça pète dans tous les sens.
Moi j'ai pas été déçu par rapport à une fin de série, c'est un peu ce que j'attendais.
Clairement, oui. Voilà. C'est efficace, c'est péchu, ça part dans tous les sens. Et puis en même temps, il y a un vrai fondement dans tout ce qui est dit dans ces deux bouquins. Quoi.
Bah, il y a un vrai aboutissement du personnage, il va au bout de ce qu'il voulait raconter.
Vous avez toutes les pistes avant et là, elles sont toutes finies dedans.
Bah, disons qu'on sent qu'il voilà, est allé au bout de ce qu'il voulait dire. Il allait peut-être finir par se répéter avec « je suis avec telle fille, je suis pas avec telle fille ».
Mais pour autant, là par contre, ce que je trouve dommage, c'est que dès le début, tu te dis « bon, tu sais ce qui se passe à la fin, tellement c'est écrit gros sur la jaquette, mais merde, peut-être qu'il va avoir une chance d'avoir une vie de merde, en fait, pour une fois. Mm-hmm. Mais non.
Donc, non, très bonne série. Donc là, nous l'a lu en kiosque. Je pense que ça va apparaître en magazine un moment ou un autre, parce que c'était sympa. Pour revenir sur le dessin, j'ai jamais été très très fan de Bagley. Je trouve que sur ses derniers numéros, franchement, il se fait un peu plaisir et le dessin est un peu plus agréable. Il a plus ses tics sur les visages que je trouvais la façon dont il dessinait les visages horribles. Là, enfin, tu as quelque chose d'un peu plus propre. Je sais pas si c'est dû à l'encreur ou à autre chose. En tout cas, je trouvais ça plutôt bien et efficace. Voilà, moi, ça m'a...
Voilà, non, c'est pas mal. Par contre, voilà, c'est vraiment le presque c'est pour un film quoi, c'est le film à l'américaine avec Spider-Man qui donc est en train de se faire friter par quatre super méchants, mais en même temps il peut taper la discute avec Tante May, sauver sa femme, lui faire un bisou, aller se faire un café et continuer le fight avec les quatre mecs en même temps.
Mais il a mal, hein.
Ouais, enfin bon, c'est
Spider-Man,
c'est Spider-Man quoi.
Ultimate Avengers hors série numéro 4 avec Ultimate X, mais en fait on va d'abord parler de Ultimate Avengers numéro 12. Si tu me les mets dans le désordre, moi je me perds.
C'est pas grave, on aurait pu inverser cet avant-vie. Ouais.
Ultimate Avengers numéro 12, non, on finit avec Ultimate Avengers. Finissons-en avec Ultimate Avengers.
La mort de Spider-Man continue ici, là aussi ils nous le disent dans le titre.
Voilà, elle continue la mort, c'est trop drôle.
Il meurt encore.
Alors, on poursuit les aventures de nos héros qui sont dans du complot, machin chose, dans tous les sens, à savoir qui est les vrais méchants, qui sont pas les vrais méchants, avec les complots entre les deux frères Stark et Nick Fury au milieu, et Sharon Carter aussi.
Et Carol Danvers.
Carol Danvers, pas Sharon Carter, je confonds, pardon. Non, Sharon Carter, c'est dans le monde normal. Je crois qu'elle est pas encore apparue dans Ultimate.
Ok, donc c'est Carol Danvers.
Voilà, Carol Danvers. En gros, on a les deux Stark qui se battent pour être les chefs du monde technologique, et on a Danvers et Fury qui se battent pour être les chefs de l'espionnage du monde. En gros.
En gros, c'est ça.
Et ils sont pas forcément d'accord. Au dessin, on a Lenil Francis Yu qui il est bipolaire.
Ouais, j'ai mis inégal. Il y a franchement. Non, je vais reprendre ton expression parce que. Il y a des planches, à mon avis, il les a dessinées avec le pied dans le cul, voilà. Et il y a des planches où tu regardes, il fait,
Waouh. Daniel Yu, il assure. Et là, des fois, bah, tu fais, bon, ok, hein, j'ai un contrat à faire, faut que je dessine vite. Au niveau du scénario, c'est correct. Je veux dire, bon, il nous avait habitué à tellement horrible, Mark Millar. C'est Mark Millar, hein, toujours. Parce que des fois, j'ai des doutes tellement c'était un peu mieux que ce qu'il avait fait les planches précédentes. Que ça avance sympathiquement, c'est plutôt bien foutu. J'ai pas été déçu. Oui, son nom est caché quelque part au fin fond du magazine.
C'est ça, c'est toujours Mark Millar, oui, toujours.
Voilà. Donc, correct, bonne fin pour Avengers, parce que la série Avengers, ça s'arrête aussi là. Hein ? Bon.
Non, c'est une bonne fin. C'est une bonne fin. Après le passage des vampires, je trouve que finalement, on n'a quand même pas trop mal fini.
Ouais, je veux dire, il s'est à peu près rattrapé.
Surtout, ce qui m'a beaucoup plu à la fin, c'est le mail que tape la veuve noire.
Oui.
Voilà, j'ai trouvé ça.
Un petit final un peu
classique,
un petit peu bien foutu. Non, c'est du beau boulot.
Par contre, le placement de produit à la fin, ça c'est too much.
Ouais, enfin Apple, machin chose, ouais, qui est placé. Ah tiens, c'est longtemps que je n'ai pas entendu mon téléphone en pleine émission. Mais ce n'est pas grave, car nous avons un bébé à côté qui va pouvoir répondre pendant que nous parlons de Ultimate Avengers hors série numéro 4, Ultimate X. Rapidement, vous souvenez Ultimatum, c'était il y a longtemps, c'était la première fin du monde Ultimate, une sorte de reboot du zéro, et tout ce qui était X-Men et compagnie avait été totalement délaissé, on en parlait un petit peu dans Ultimate Spider-Man.
Enfin, totalement délaissé, totalement annihilé aussi.
On en parlait un peu dans Ultimate Spider-Man parce qu'il y avait des anciens X-Men dedans, genre Bobby Drake.
Il n'y en a plus beaucoup quoi.
Ouais, il n'y en a plus beaucoup, et puis en plus les mutants sont vraiment tous détestés de la mort. Et là on retrouve Jeff Lubb au scénario et Art Adams au dessin. Jeff Lubb. Parlons d'Art Adams, ça sera le scénario est un peu plus complexe à reparler. Art Adams, moi je trouve que c'est efficace quoi. Moi j'aime bien Art Adams, j'adore ses dessins.
Ben c'est ça, c'est le même truc que pour Lenny Francis Yu tout à l'heure quoi. C'est génial, mais pas tout le temps.
Ouais.
On me dit il y a un petit passage avec un mutant qui s'appelle Derek, qui est un passage où donc il pleut et tout. Ce passage-là est absolument splendide, c'est une tuerie au niveau du dessin. Et il y a des passages où pour moi, c'est presque à vomir, quoi. J'ai l'impression de voir un mauvais manga des années 80. Après, voilà, c'est mon avis, hein. Certains diront que c'est la couleur, c'est l'excuse qui a trouvé pied.
Ah oui, il y a des passages où la couleur, des fois, me semble un peu terne, un peu. Ouais, je sais pas. Mais moi, je sais que. Bon, Art Adams, j'aime beaucoup. Ensuite, je sais qu'il a été très très lent. Cette série devait au début être une série régulière avant de devenir une série limitée parce qu'il dessine trop lentement. Voilà, quoi. Voilà.
Voilà. Mais bon, au niveau du scénario, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, j'ai trouvé. Bon, alors, Jeff Lubb a trouvé un tic qui lui plaît beaucoup, c'est de faire un narrateur en voix off qui parle en parallèle de ce qui se passe dans la série. Il nous a déjà fait le coup sur le Ultimate, je sais plus quoi, avec Thor. Ultimate Thor. Il nous a déjà fait le coup, c'était sympa et surprenant sur le coup. Là, ça fait un petit peu gimmick facile, même si ça marche bien. Mais. Quand on sort de Ultimate Thor et qu'on arrive là-dessus, le coup de la double narration est un petit peu facile, même si je pense que ça doit pas être facile à maîtriser au niveau de l'écriture. Mais bon, ça fait déjà vu. Je trouve ça intéressant. Ils partent sur des trucs faciles, le fils de Wolverine. Mais ils arrivent à amener ça de façon intelligente. On voit que les mutants essayent de s'en sortir comme ils peuvent, et c'est pas évident. Ils essayent de remonter une équipe, hein, parce que c'est surtout ça, de se réorganiser après Xavier. Pour se réunir et s'organiser, et on retrouve exactement ce qu'on avait dans les premiers X-Men avec les X-Men et la confrérie des mauvais mutants qui est en train de se mettre en place en parallèle. C'est bien écrit, chaque épisode est indépendant et suit un mutant en particulier, et c'est très prenant et on a bien envie de voir la suite. Pour moi, le scénario, c'est un début, quoi. J'ai envie de savoir ce qui va se passer après parce qu'ils ont réussi à me rendre tous ces personnages intéressants.
Ben, clairement, ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon relaunch, quoi. Tu repars avec une nouvelle équipe de X-Men et tous les personnages ont déjà une profondeur, c'est attachant, c'est non, vraiment.
Ils reprennent les bases, c'est-à-dire des X-Men, ce sont des ados qui sont dans un monde où on les déteste. Sauf que là, ils essayent pas de sauver le monde, ils essayent juste de survivre.
Ouais, mais il y a Kitty qui les dirige.
Plus sombre. Ah, le seul regret que j'ai eu, c'est que du fait d'avoir mis Jean Grey en brune parce que c'est dans les cheveux, j'ai cru que c'était Kitty Pryde. Je me suis un peu planté jusqu'à ce que j'ai fait. Mais depuis quand Kitty Pryde fait de la télékinésie ?
Elle est trop forte.
Voilà. Non, très 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 bon truc et je pense que on peut s'arrêter là.
Bon, c'était mais dommage en même temps parce que de toute façon ça n'a pas duré donc.
Oui, mais on va voir ce que va donner la suite de l'univers Ultimate qui va re-avoir une sorte de pseudo relaunch après un peu moins violent que celui de Ultimatum, mais voilà.
Je fais pas de jingle parce que sinon je vais me faire engueuler.
Dans les bacs. Bon, c'est à ton tour de nous parler. Hein, je fais que parler là.
L'homme qui n'existait pas.
Oui.
Ah, c'était un bouquin de qui ça?
De Cyril Bonin.
Cyril Bonin qui est à la fois au scénario et au dessin.
Et à la couleur, tant qu'à faire.
Bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. De toute façon, peut-être qu'il n'a pas de femme et que sa femme ne peut pas le faire à la couleur.
Oh là là, on va se faire tuer par tous les coloristes.
Ça, c'est pour ceux qui ont écouté nos interviews des Calanques et des Bulles. Et où nous avons discuté avec des coloristes et voilà, c'était un petit peu la vache maigre.
Ouais, tu vas passer pour un machiste anticoloriste.
Non, parce que franchement, je trouve ça. On en reparlera plus tard, ou je ne sais pas si c'est déjà passé Claude Gutt ou pas.
Oui, oui.
Ah ben voilà, non, j'ai tellement d'admiration devant ce qu'ils font que. Voilà. Donc l'homme qui n'existait pas. Donc c'est l'histoire d'un gars qui n'existait pas. Voilà. Allez. Bon ben donc on passe au suivant. À toi. Non. Donc l'homme qui n'existait pas, c'est ça va. C'est une blague. Je suis une private joke tout seul. C'est bien, non? Donc c'est un informaticien qui se coupe peu à peu, on va dire, de tout ce qui est vie sociale et qui ben, petit à petit va s'apercevoir qu'il n'arrive plus à parler aux gens, qu'il a de moins en moins d'interactions avec eux, et à un moment, il va même devenir invisible. Il est toujours vivant, mais bah, il ne peut plus parler aux gens, il ne peut plus toucher. Alors d'ailleurs, il y a un petit truc qui n'est pas trop abordé dans le truc, c'est comment est-ce qu'il fait pour manger, tu vois.
Il n'a plus faim.
Et ouais, il est dans une vie qui est en dehors de la... Enfin, voilà.
Léonide Miller, c'est son prénom.
Voilà. Et donc du coup, ce gars se retrouve finalement spectateur de la vie des autres, jusqu'au moment où il va rencontrer une star du cinéma montante. Et qui va s'apercevoir qu'elle aussi commence à faire... Bon, attends, on fait une petite pause, parce que là, elle fait tomber son stylo. Vas-y, ramasse son stylo.
Tu peux continuer à parler pendant
que je ramasse mon stylo. Non, mais vas-y, c'est bon, c'est comme ça les va, gosses. Mais... Si j'attends, tu leur expliques un truc, et là, de suite, ils sont en train de...
Mais les gens, ils savaient pas que j'avais fait tomber mon stylo. T'es pas obligé de couper le podcast pour ça. Bon, vas-y, enchaîne. Hein.
Donc, du coup, il rencontre une petite starlette, une jeune starlette qui débute, et pose ton stylo.
Mais t'es casse-couille! Toi, t'es en vacances, t'as envie de vite retourner à l'école pour bosser, c'est ça? Ça ouais, te manque de fouetter des enfants, salaud! Bon, continue ton truc!
Et il s'aperçoit que cette starlette commence à faire un petit peu la même chose que lui, c'est-à-dire qu'elle fait donc ses scènes d'actrice, mais de plus en plus elle se coupe de la réalité, et lui va rentrer dans son rêve pour lui dire que non, il faut pas qu'elle fasse ça.
Parce que lui est un cinéphile à la base, hein. Il adore tous les vieux films.
Tous les vieux films en noir et blanc.
Et c'était à la Cinémathèque française où en fait il la rencontre parce que
elle est en interview.
Elle vient présenter un film. Alors lui se dit c'est la starlette montante à deux balles. Au début il se dit elle va rien avoir d'intéressant à dire. C'est qu'une gueule cette bonne femme.
Oui mais il dit quand même qu'elle était intéressante dans ses rôles.
Oui mais bon il se dit voilà c'est une phase quoi. Elle a rien d'intéressant à raconter et il est surpris donc il commence à s'intéresser à elle.
Voilà, et donc il commence à la suivre, parce que forcément, comme il ne peut parler avec personne, il a à peu près rien à faire de sa vie.
Petit côté le passe-muraille.
Ouais, bah, l'homme invisible aussi, hein, parce que ouais. Du coup, il est spectateur
c'est entre
de
les deux.
Moi, au niveau du scénario, je dis que c'est un petit peu philosophique.
Interrogateur, on se pose beaucoup de questions, en fait, sur... Et à sa place, comment on réagirait En plus, le scénariste se permet de mettre ce côté fantastique pour raconter les personnages sans à aucun moment vouloir donner d'explication sur le pourquoi du comment.
TGCM.
Ta gueule, c'est magique, oui, c'est ça. Donc c'est vrai que on est vraiment dans un peu le petit conte philosophique, effectivement. C'est assez intéressant, bien prenant. J'ai pas été emballé à 100%. Je t'avoue qu'au final, j'ai trouvé la réflexion intéressante, mais un peu creuse. Ça va pas très très loin. C'est une belle histoire, mais ça m'a pas marqué.
Moi, je trouvais ça sympa quand même.
Ah oui, mais j'ai pas dit que c'était pas sympa.
Ouais, non, j'ai trouvé ça prenant dans le sens où tu vas suivre son introspection petit à petit en fait. Parce que lui, au début, il est dans l'incompréhension face au phénomène. Puis, il se met à en profiter. Puis, troisième phase, il va commencer à chercher pourquoi en fait ça lui est arrivé. Et il va faire le parallèle entre ce qui lui est arrivé à lui et ce qui est en train d'arriver à la jeune starlette.
Oui, il se rend compte de ce qui lui arrive.
Qu'en fait, ce qui lui arrive, c'est sa faute à lui. que c'est lui en fait qui a provoqué ça.
Alors ce qui est rigolo, c'est que comme je disais, il n'y a pas d'explication sur comment ça s'est passé, mais on a quand même, on peut l'imaginer. C'est des gens qui se coupent du monde et de la réalité pour les deux, hein, petit à petit, et la réalité les coupe pour de vrai. Alors ça pourrait arriver à des milliers de personnes si c'était vrai. Tous les joueurs de WoW seraient dans cette situation-là.
Non, parce qu'ils ont plein d'amis.
Ouais.
Ouais. On en parlera bientôt sur Horizon 1.1. Noob.
D'accord. Mais j'ai pas encore lu les noobs.
Ouais, ça c'était mon dernier achat. Enfin bon, en indication totale. Voilà, donc moi l'homme qui n'existait pas, écoute, au niveau du dessin, je trouvais ça vachement bien.
Alors moi j'ai mis doux.
Bah, c'est, oui, mais le dessin c'est doux. Enfin, moi je trouvais bien efficace.
Mais... Donc oui, efficace, ouais, vas-y, continue.
Efficace, parce que voilà, de toute façon, le propos n'est pas dans le dessin. Le dessin est vraiment le soutien de l'histoire, je dirais.
Et j'irai pas jusque-là. Moi, j'aime beaucoup le dessin de Cyril Bonin. Il y a un travail de la couleur, des teintes, du...
Non, pas du dessin, je te parle du dessin. Maintenant, on arrive
on met dessin de couleur, mais tout en même temps. Bah, ça
après,
va.
Après,
tout de suite, t'as interrogé des coloristes. Maintenant, il faudrait qu'on mette la couleur à part du dessin.
Bien sûr. Bien sûr, c'est aussi important.
Oui, mais on parle en même temps.
Après ma phrase misogyne de tout à l'heure, maintenant, tu vois, je la replace.
Ouais.
Non, c'est super important parce que là, du coup, quand il passe dans l'invisible, tu as vraiment un jeu au niveau des couleurs, au niveau des transparences sur son corps qui sont quand même vachement bien faits.
Oui, puis il a un trait très dynamique. Donc, on l'a fait lu. Zut, c'était quoi ce qu'on avait lu de lui juste avant de Cyril Bonin, qui était bien aussi chez Futuropolis.
Oui.
Ça me revient pas. Une très très bonne BD que j'avais bien aimée, qui était adaptée d'une nouvelle qui était sympathique.
Ben, c'est pareil,
possible.
C'est un gars qui changeait de tête.
C'est ça. Donc on en a parlé dans une de nos émissions, oui. Mais vous retrouverez. Hein, voilà. Et je trouve que là, il n'est pas dans un truc d'époque. Et son trait va très très bien dans le contemporain. Ça passe plutôt bien. La belle image.
La belle image. C'est ça.
D'après Marcel Aimé. Voilà. Donc moi le trait de Cyril Bonin, j'aime beaucoup. Ça s'adapte très très bien avec son histoire. Ça colle très très bien. Voilà. Pour moi, globalement, si je devais résumer cette BD, le fond et la forme vont très très bien ensemble. C'est vraiment sur ce point de vue là une très grande réussite. Maintenant, même si j'ai trouvé l'histoire sympathique, je suis pas sûr qu'elle me restera longtemps en mémoire.
Je valide, mais c'est un très agréable petit moment.
Ouais, voilà, ça vaut le coup à lire quand même. Enfin, j'ai pas aimé.
Et puis ça m'a donné aussi envie de regarder des vieux films. Je sais pas pourquoi.
Oui, j'ai aussi envie de regarder des vieux films.
Je suis regardé 12 hommes en colère.
Je l'ai pas vu celui-là.
Et nous passons donc à Élise et moi. On est en pleine période. Là, oui. Celui-là, il sera quand ? Ah, ben on est en plein entre les deux tours. Hein.
Ouais, on est en plein entre les deux tours. Élise et moi par TF aux éditions Bac à BD. Alors, Élise et moi nous raconte l'histoire d'un homme politique qui croit en ce qu'il fait, etc. Hein, et qui va se retrouver représentant de son parti pour les élections présidentielles.
Il croit en ce qu'il fait ?
Oui, il y croit. Il est... Le gars, au début, il a...
Non, il croit en quoi ? Il croit en lui, en fait, hein, surtout.
Si tu regardes bien la bande dessinée, au départ, ce mec-là, il a un idéal. Ensuite, le problème, c'est qu'il se retrouve au fur et à mesure... tu parles du flouze de... Non, il a un idéal. Le mec n'est pas présenté comme un enfoiré, en tout cas. Ce qui se passe, c'est que vis-à-vis de son entourage, de ses conseillers, il finit pour pouvoir avoir une chance d'être élu, à faire beaucoup de compromis, dans le sens se compromettre. Ce qui est assez limite. Ce que j'en ai pensé au niveau du dessin. Commençons par ça. Je trouve le dessin pour du dessin humoristique, donc c'est de la BD en gag en une planche, il y a quelques gags en strip. Pour la BD humoristique, je trouve le dessin très correct, efficace, bien foutu. Il y a un seul défaut, c'est que Tief, je trouve son dessin bien, mais alors en tant que coloriste, il faut qu'il s'achète des yeux. Quoi.
La couleur est très mauvaise, très criarde. Quoi. Ça
gâche le trait. Ouais.
Parce que tous les dessins sont assez c'est un petit peu c'est caricatural
mais c'est propre, c'est efficace, c'est propre, c'est efficace.
Il y a même je dirais des jeux dans les proportions à des moments ou des gros plans, enfin c'est
un
bien.
Un travail sur la mise en scène qui est bien foutu quand il veut jouer sur le stress, etc. Mais ces couleurs, trop de dégradés, trop d'effets de couleurs, moi qui m'ont vraiment perturbé, je trouve qu'il en a un peu trop fait sur la couleur et c'est dommage. D'autant que pour le coup, je trouve la couverture pas réussie. Elle parle pas assez pour moi, cette couverture. Parce que, au niveau du scénario, et je pense que c'est là qu'on ne sera pas d'accord, Je l'ai trouvé pas si mal ce scénario pour de la BD en une planche. Ça fait se poser des questions, c'est l'objectif de la collection Ciboulot, hein, on en avait parlé avec l'éditeur en interview. Ça fait se poser des questions, c'est intéressant. Le mec est pas totalement un enfoiré, on voit que c'est son environnement qui le force pour qu'il ait une chance en fait sur cette élection à faire des choses pas forcément très top. La conclusion d'ailleurs va dans ce sens-là parce qu'il a quand même parmi ses proches, quelqu'un qui a su rester intègre et qui est un ami en fait, hein, politique depuis le début. Et la conclusion va dans ce sens-là du est-ce que ça valait le coup de se compromettre à ce point.
Alors, je suis d'accord avec toi sur la conclusion, mais pour tout le reste, je suis pas si sûr. Que le gars, tu vois, soit quand même quelqu'un de tout blanc, d'intègre. Au contraire, je dirais que c'est quand même la pierre des fouines, qui a à peu près 0% de moralité dès qu'il sent que le pouvoir pourrait être à portée de main, quoi. Et quand il se dit, oh ben tiens, non, ça va, j'ai pas été élu, d'un coup il retrouve des valeurs, ouais, la démocratie, le pouvoir au peuple, c'est trop bien. Mais franchement, si j'avais pu être président, bah, je vous aurais tous mis profond et ça aurait été trop bien, quoi. Enfin, je trouve que la voix est un peu gentille avec lui.
Moi, je trouve que c'est ce personnage de son ami politique qui est le gars qui est dans l'idéal, qui te montre qu'en fait, effectivement, le pouvoir corrompt. Ce gars-là, tel que je le lis, il est parti avec des idées. Comment ? Il est parti avec des idées nobles. Après, clairement, ça paraît comme un mec de droite plus qu'autre chose. C'est l'impression qu'il donne. En tout cas, c'est l'impression qu'il m'a donné. Je ne sais pas pourquoi.
Toute ressemblance avec quelqu'un de connu serait purement fortuite.
Je trouve que physiquement, ils ont fait un portrait entre Sarkozy et DSK. C'est un mélange des deux.
Mais on va dire qu'il y avait de l'Emmanuel Chin pour les sourcils.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
Comme ça
il ne se retouche pas. Mais c'est vrai que le gars qui est parti d'un idéal, avec une volonté politique d'idéal, et qui s'est fait corrompre par le pouvoir petit à petit, et on a ce personnage de son ami d'enfance qui est là pour nous rappeler ce qu'il était avant de devenir un connard.
Oui, enfin, soyez en passant, quand même, l'ami d'enfance se fait particulièrement quand même pourrir par le candidat à un moment ou à un autre. Donc, alors, quelque part, on n'a pas beaucoup aimé ni l'un ni l'autre, mais... toi, t'as plus aimé que moi, mais finalement, regarde, ça amène une discussion. Donc
je trouve que c'est que super intéressant dans ce sens-là, parce que ça amène à la discussion, en tout cas, voilà, pour que j'en sois, c'est pas mal.
Finalement, a réussi peut-être à faire quelque chose, quoi. C'est que moi, j'ai pas du tout aimé, et j'ai trouvé ça pitoyable. Mais toi, du coup, tu vois, tu as trouvé ça...
Je trouve ça intéressant. Je trouve que ça remplit son rôle de vouloir faire réfléchir. Et puis, c'est d'actualité, donc voilà, vous pouvez le lire au Virgin si vous vous posez des questions. Ling Ling par Bertrand Eskeich, Marc Nguessan et Maëla Cosson aux couleurs. Chez Bambou. On parlait de la politique de Bambou qui a pas mal évolué ces derniers temps. Ling Ling en est un signe. Premièrement, dans de l'histoire complète, on n'est plus dans de la BD à gag, ce qui est quand même la signature de chez Bambou. Et qui, pour le coup, est assez ambitieuse, je trouve, et assez intéressante dans cette histoire complète. Qu'est-ce qu'on va suivre ? On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle donc Ling Ling, qui veut devenir super balèze en arts martiaux, entre guillemets, qui a suivi son maître, etc., etc., et qui se retrouve à errer dans la Chine des Tang. Oui, c'est l'époque, pardon. Je ne sais pas si c'est un rapport avec Orange ou quoi que ce soit.
Tu sais que là, il y a quand même. Là, t'as perdu la moitié de l'auditoire, parce que le Tang, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent, je pense.
C'était bien le Tang, c'était rigolo.
Ouais, tous les plus de 35, enfin tous les moins de 30 ans ne connaissent pas le Tang. Hein.
Je prends un Tang avec mon flambi, avec la languette. Et qui donc se retrouve mêlé au milieu d'histoire parce que en gros il y a une sorte de chasseur de tête de tête ou de cul, faut choisir, qui essaie de récupérer des jeunes filles pour les emmener dans le sérail du je ne sais plus comment, mais enfin bon l'empereur, hein, le sérail de l'empereur.
Ouais.
Alors elle, bien entendu, n'a pas envie, elle éclate les gueules du mec parce qu'elle est super balèze en arts martiaux. Et puis finalement, il se rend compte qu'elle va enlever une autre femme qui a besoin d'aide parce que son enfant a été enlevé et dans le sérail. Et elle veut. Et donc Ling Ling décide de l'aider à essayer de récupérer ce gamin. Et donc on va suivre une série de personnages assez rigolos, avec des portraits sympathiques, tous un peu caricaturaux, un petit peu exagérés, mais... qui vont très très bien avec le type d'histoire. On est dans de l'aventure légère. Moi, pour le scénario, j'ai mis léger, d'ailleurs. Hein. C'est pas léger au sens... Il n'y a rien dedans. Il y, Il y a du contenu. Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses dans cette bande dessinée.
Bah moi, j'ai mis que le scénario était excellent. Donc.
Voilà, oh, carrément. Monsieur, il va avec les superlatifs. Très bien mené. Et franchement, j'ai passé un très bon moment à suivre ces personnages avec du délire entre le manga sur tout ce qui est action et baston. Sauf qu'ils ont décidé de diviser par 100 le temps des scènes de combat. Ça dure une ou deux pages.
Ouais.
Des personnages qui sont tous drôles et attachants. Un propos qui n'est pas infantilisant, un mélange adulte-enfant aussi. C'est-à-dire qu'en gros, ça, pour moi, ça peut aussi bien plaire aux adultes qu'aux enfants. Le dessinateur, d'ailleurs, dessine très très joliment les femmes. Je trouve ça plutôt pas... Franchement, t'es d'accord ?
Oui.
Les deux poufs, on peut le dire, du sérail, elles sont...
Ah, de suite, voilà. Alors ça, je trouve ça... Ça, c'est pas misogyne, peut-être ? Moi, je parlais des couleurs tout à l'heure, hein, mais voilà. Une fille est bien roulée, c'est une pouf.
Ah non, je te parle de leur comportement. Bref.
Elles sont légères.
Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, un très très bon boulot au niveau du scénario. Qu'est-ce que tu as à dire sur le scénario en plus à part que c'est exceptionnel.
Bah écoute, c'est un mélange, on va dire, d'une bonne enquête. Parce que du coup, tu remontes petit à petit pour retrouver l'enfant. En même temps, tu as la quête annexe avec l'empereur qui a demandé à son devin le secret de l'immortalité. Et que le gars se retrouve bien emmerdé parce qu'il a fait « Oui, oui, je vous le trouverai ». Et là, il fait « Mais c'est quoi que vous voulez, au fait ? Le secret d'immortalité ? Oh, merde !
Merde ! »
Et donc, du coup, il va dans le bureau des rumeurs.
Le bureau des rumeurs, qui est le titre de l'album, oui.
Qui est le titre de l'album et qui est donc un bureau, enfin une tour au milieu d'un lac. Qui est le siège d'une société où il y a plein d'agents partout et qui écoutent toutes les rumeurs et qui envoient toutes les informations à ce bureau-là. Et donc, du coup,
d'espionnage, quoi.
Ouais, le truc d'espionnage. Et donc, toutes ces petites histoires qui s'entremêlent les unes dans les autres...
Oui, parce qu'en fait, on a quand même réussi à parler tous les deux du scénario, mais de deux aspects différents, et déjà, là, c'est riche en soi.
C'est vrai, voilà. Et puis, les personnages, comme tu disais, sont humoristiques, sont attachants. C'est bien mené, c'est sérieux par moments, c'est drôle pour d'autres.
Allez, voilà. On va dire un petit reproche. L'héroïne est un peu creuse, mais d'un autre côté...
Pour l'instant.
Oui, pour l'instant, je l'ai trouvée un peu creuse, mais d'un autre côté, elle sert... Ce qui est marrant, c'est que l'héroïne sert de faire valoir aux autres personnages, en fait. C'est l'impression que ça donne.
Ouais, mais je pense aussi que là, ils ont pris le parti pris de pas faire de présentation.
Oui.
Premier tome, on rentre directement... dans l'action. Il n'y a pas de bon ben Ling Ling c'est qui ? Non, on s'en fout. Voilà, directement on est rentré dans le vif du sujet et je pense que l'épaisseur au personnage va venir petit à petit en fait. Parce que là tu as déjà le deuxième tome qui est prévu pour le 25 avril 2012. Donc c'est-à-dire qu'il est
sorti
déjà depuis juste quelques jours, depuis 2-3 jours et 4 jours exactement vu qu'on s'apparaîtra le 29.
Tata, jouons sur le temps.
C'est ça. Mais voilà, je trouve que c'est. Enfin, on en parlait la dernière fois, donc justement chez Bambou. Je trouve que ils sont lancés peut-être de nouveaux défis chez Bambou avec des nouvelles éditions qui sont.
Oui, comme on en parlait tout à l'heure dans les news.
Et c'est vraiment, je trouve, très riche, très intéressant. Et franchement, qui continue comme ça parce que ça donne envie aussi d'acheter du Bambou pour d'autres raisons que celles qu'on avait déjà affichées au tout début du podcast.
Voilà. Le dessin, on n'en a pas parlé.
Donc moi c'était un petit peu la ligne claire, un petit peu comme tu m'as dit toi, semi-réaliste quoi. C'est joli, c'est esthétique, c'est bien colorisé, c'est un peu pastel. Ouais, moi j'ai trouvé ça
bien. Moi je trouvais que le dessin est dans une veine donc semi-réaliste. J'avais utilisé comme mot expressif, c'est-à-dire que les expressions des visages des personnages sont très bien foutues, les corps sont proportionnés de façon assez réaliste, mais il se permet au niveau du dessin de nous montrer des personnages avec des têtes vraiment caricaturales, le gars qui a les dents super en avant, il sait exagérer sur certains personnages mais pas sur tous, et pourtant le mélange se fait très très bien. Ensuite, effectivement, la couleur est tout en finesse, c'est-à-dire que il y a quelques effets, par exemple des effets de transparence pour la brume, etc., mais il n'y a aucun abus à ce niveau-là, il n'y a pas de dégradé à outrance, les couleurs sont, d'ailleurs, il n'y a quasiment pas de dégradé, voilà, pas à outrance, non, les couleurs sont très très bien foutues, une bonne mise en valeur des personnages, du beau boulot, quoi, c'est propre, c'est net. En conclusion,
Vivement qu'on achète le tome 2.
Voilà, moi j'ai vraiment trouvé ça très sympathique. Une très très belle, un très très beau boulot, un dessin superbe. Ça vaut le coup. Je pense pas que ce soit. En gros, si vous cherchez une bande dessinée que vous pouvez lire, je pense, avec vos enfants, ados, etc., ça passe très bien. C'est vraiment du tout public réussi. Du bon tout public, et c'est pas évident d'en trouver.
Splash Page. La Splash Page Tio.
Nous avons reçu lors du festival des Calanques et des Bulles.
Puis tu me rends pas le bouquin, je fais rien.
Oh, ça va, hein. Nous avons reçu donc Vincent Co, que nous avons rencontré, qui était fort sympathique, qui m'a fait une belle dédicace sur mon soit dit en passant, que vous pourrez voir sur le site. Vincent Co, qui est vraiment très, 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 très adorable. Je n'étais pas là sur l'interview.
Ouais.
Voilà, j'étais un peu. Voilà.
Il était un peu occupé, quoi.
Voilà, mais Thio a géré ça d'une main de. D'une voix de maître. Et on va vous la passer de suite avant d'enchaîner pour vous donner notre chronique, notre avis sur, soit dit en passant, la première, entre guillemets, bande dessinée de Vincent Co.
Bonjour, aujourd'hui on est avec Vincent Co.
Bonjour. Bonjour.
Donc voilà, c'est notre première interview en direct du festival. Ma première aussi interview en direct sans mon maître OneIPA qui n'est donc pas là aujourd'hui. Alors donc Vincent Co, donc je vais essayer de te présenter rapidement. Auteur prolifique avec je crois 4 BD déjà à ton actif.
Là il en manque parce qu'il y a des albums qui sont en réimpression qui n'ont pas pu être là. Je crois que ouais, j'en suis à 6 albums.
6 albums déjà.
Le 7e sort très bientôt là, le 12 avril.
Donc le terme de prolifique n'est pas usurpé sur le coup.
Ouais, je sais, ouais.
Ton actualité en ce moment, c'est quoi justement qui sort ?
Alors comme je disais, donc j'ai un album, le dernier album paru, c'est le tome 2 d'Où es-tu Léopold, d'une série jeunesse que je fais avec Michel Schmitt.
Chez Dupuis.
Chez ça. Dupuis. Et là, l'album qui sort bientôt, c'est Les aventures de la fin du monde, qui ont déjà été chroniquées par vous, je crois, ouais, du temps où c'était un blog,
c'est ça.
Où je l'ai publié sur Internet. Et donc ça sort chez 12 bis le 12 avril. Voilà.
Ok.
Enfin, après plusieurs épisodes malencontreux.
Donc du coup, voilà. Maintenant, ce sera toujours en disponibilité sur le site ou
Alors du coup, bon, pour des raisons purement contractuelles, j'ai laissé que le quart, je crois, ou le tiers, je ne sais plus exactement, mais voilà, il y a encore le début si on veut. J'ai juste enlevé l'autre partie et puis de toute façon, il y a eu des modifications qui ont été faites par rapport à l'album, donc.
Pour mieux coller au format.
Voilà, pour mieux coller au format. Tous les lettrages ont été refaits, les couleurs aussi. Et du coup, il a fallu tout enlever. Enfin bon, voilà.
Ok.
Mais on peut encore lire le début.
Du coup, juste pour donner envie d'aller, d'aller acheter la suite. Ouais, non, mais en même temps, c'est de bonne guerre. Hein. Je voulais te poser une question par rapport justement à ton début de carrière entre guillemets prolifique quoi. C'est comment est-ce que tu gères le succès quoi ? Parce que c'est
Le succès c'est pas non plus peut-être pas le mot, mais c'est vrai que j'ai pas de problème pour bosser pour l'instant et pas de problème non plus pour faire éditer mes projets. Ça c'est vraiment une chance de démarrer comme ça. Moi, on m'avait jamais dit qu'on pouvait. Enfin, en général, on m'a dit qu'on galérait beaucoup au début et moi j'ai eu la chance de pas connaître ça. Peut-être que je le connaîtrai après. Peut-être que ça va s'inverser, je sais pas. Mais là, c'est en tout cas, oui, j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là.
Justement, par contre, j'ai lu sur les diverses bios qui courent sur Internet, voilà, c'est que tu, malgré le succès pour l'instant, la réussite, quoi, tu continues donc tes études. Ça a été.
Pardon ?
Tu continues tes études en fait.
Oui, je continue mes études. Là, je suis en dernière année d'illustration à l'école Estienne à Paris. J'ai 20 ans donc.
Tu n'as pas voulu arrêter
j'ai
pour.
J'ai pas non plus trop envie d'arrêter, de m'enfermer chez moi, faire des dessins tout de suite. Et je me sens que j'ai encore besoin du cadre des études aussi pour apprendre des nouvelles choses. Et pas tomber dans des conforts de choses que je sais déjà faire si je commence à faire ça à 20 ans.
Et là, pour l'instant, tu continues à travailler tout seul ou tu travailles en studio avec.
Alors, pour l'instant, je travaille chez moi en rentrant des cours. voilà.
Je voulais te poser une question par rapport à ton blog, c'est que tu expérimentes beaucoup au niveau des niveau des styles. C'est moi je me suis vraiment régalé en fait aussi parce que ça passe dans tous les sens. Il y a plein de tests. Tu testes des encres, des supports. Est-ce qu'on va avoir des parutions justement avec ces nouveaux styles ou pas?
Alors, dans tous les sens, c'est vraiment le mot. C'est aussi le cadre des études qui fait que j'ai ce... Quand on fait des études d'art, c'est aussi un peu le but. Et moi, du coup, je peux combiner un peu l'activité d'auteur-illustrateur et l'activité, entre guillemets, d'étudiant et de l'activité expérimentale, quoi, pour vraiment mixer les deux. Et c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien pouvoir se les faire rencontrer, éditer un projet un peu plus axé sur ces expérimentations graphiques que je peux faire sur mon blog. Ouais.
Ok. J'avais une question par rapport à ce que tu es en train de produire sur l'île du Docteur Moreau.
Oui.
Est-ce que tu auras... voilà, parce que là, on voit les essais que tu fais au fur et à mesure. Est-ce que la sortie est prévue bientôt?
Alors, l'île du Docteur Moreau, c'est un projet sur lequel je suis en train de bosser en ce moment. Là, une adaptation du roman de Wells. J'espère que ça sera édité. Bon, pour l'instant, j'en suis vraiment à l'écriture du scénario et aux premières pages crayonnées. Je profite du blog pour avoir des retours sur ça en même temps que je bosse. Mais pour l'instant, je ne l'ai présenté à aucun éditeur.
Ok, donc pour l'instant, tu le laisses en
bientôt,
format
bientôt, j'espère.
Voilà. Ouais. Ça va. Quel est ton avis, en fait, justement, parce que bon, toi, tu viens des blogs au départ, et ton point de vue, justement, sur les BD numériques?
Oui, donc moi, je viens des blogs, j'ai commencé comme ça. On m'associe encore beaucoup à ça, à juste titre, d'ailleurs, je pense. Bon, par contre, je suis pas du tout un lecteur de BD sur iPhone, même sur Internet. Je lis quelques blogs comme ça sur des choses assez courtes, mais j'ai une espèce de gêne par rapport à la BD numérique qui fait que je trouve ça moins pratique, avec un peu moins de charme. On enlève. Ça fait un peu vieux de dire ça, alors que je suis partie de la génération qui normalement devrait pas gêner, mais je suis encore attaché quand même au papier.
Voilà, à l'objet en fait.
À l'objet, ouais. Ça a quand même un charme qui est autre.
C'est clair. C'est
une pérennité qui est pas la même non plus.
Alors, juste pour finir, parce que là, je vois déjà que tu as des clients. Quelle est ta dernière découverte BD?
Alors, c'est assez étrange, parce que justement, moi, ma culture vient des blogs. Après, elle est tout de suite partie vers des choses super expérimentales. Et en ce moment, je suis en train de redécouvrir vraiment les gros classiques. Alors, ma dernière découverte, c'est Picsou. c'est assez bizarre de dire ça, mais en fait, j'ai toujours... La BD m'a intéressé assez tard et j'ai zappé toute une partie, tous les gros classiques. Et là, je viens de découvrir les Picsou qu'avait fait Don Rosa. Et c'est vraiment une grosse claque. Je pense que ça m'influence aussi beaucoup en ce moment.
La jeunesse de Picsou ?
Oui. Je l'ai encore dans mon sac. Je l'ai fini tout à l'heure dans le train.
On l'a chroniqué il y a quelques mois déjà sur le...
Oui. Et vraiment, c'est une grosse claque que j'ai fait. Et puis, voilà, tout... Je redécouvre énormément de gros classiques en ce moment et je trouve ça super.
Non, c'est clair. Là on était unanime avec Pierrick aussi sur la qualité justement de la jeunesse de Picsou dans Rosa. Alors, vous imaginez en France. Voilà. Vous imaginez un gars qui a...
Love.
Voilà, c'est ça. Un gars donc qui a 19 ans.
Ouais, enfin il en a 17 là au moment.
Enfin, 17, ouais, 17 au moment pour soi-disant passant.
Ouais.
Qui vous raconte des belles histoires, qui 4 ans plus tard a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouquins. Voilà, qui est sympa, qui est plutôt beau gosse. Franchement, voilà, c'est
Ah, il a trop kiffé.
Voilà, c'est le mec.
Tu vois, franchement, c'est le mec qu'on déteste. Il a failli passer la soirée avec lui, quoi. Le problème, c'est qu'il y avait une horde de filles juste devant sa chambre. Il a pas pu rentrer.
C'est ça. Non, c'est le mec qu'on ne peut que détester. Voilà, il a tout pour lui.
Ouais.
Il est talentueux, il est super sympa. Il fait plein de choses qui sont hallucinantes avec ses stylos. Surtout là, je vous dirais d'aller voir son blog.
Ouais, sur son blog.
Où il fait beaucoup de tests, beaucoup de nouveautés, on va dire, qui ne sont pas encore des choses qu'il met dans ses albums.
Même s'il travaille sur le Docteur Moreau, là, et on a pas mal d'expérience, on voit qu'il s'amusait à expérimenter plusieurs styles et il les a mélangés récemment dans les derniers trucs qui montent pour le Docteur Moreau. C'est super intéressant.
C'est clair, voilà. Bon, mais en fait, voilà, je ne peux pas faire une page page en disant que bon, c'est un truc pas bien, c'est... Voilà, c'est quelqu'un de génial qui en plus fait des trucs qui sont géniaux. Et j'irai, j'attends juste la suite, quoi, la suite de sa carrière pour voir ce que ça va donner. Parce que je pense que ça va être.
Bah, disons que voilà, sur soit dit en passant, ce premier album, il avait déjà des bonnes bases. Le petit jeune de Vincenco à 17 ans.
À 17 ans, voilà, il avait des bonnes bases. C'est vrai que ça fait un peu un album un petit peu. Bon, déjà sur le ton du dessin, c'est un peu enfantin.
Ouais, mais c'est très pro, c'est très propre, ça.
C'est voilà, c'est très propre. Puis bon, c'est vraiment une vie, quoi.
Bon, que nous raconte, soit dit en passant, vas-y.
Bah, la vie d'un lycéen.
Qui va passer son bac.
Qui va passer son bac, quoi. La vie d'un lycéen, tout ce qu'il y a.
Des années 2000.
Ouais, ce qui finalement quand même m'a rassuré, ils sont pas si différents que ce que nous étions nous quand on a passé le bac.
Ouais, sauf qu'ils ont des téléphones portables, eux.
Ouais, mais bon. Et eux, ils étaient pas en train de rembobiner leur cassette avec un stylo.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, ça c'est pour ceux qui ont vu Bref.
Ouais, bon. Donc, ils nous racontent... Oui, c'était bien cet épisode. Et...
là aussi, du coup, tu reviens, tu fais « Oh merde, quand j'étais lycéen, j'étais aussi comme ça ouais. ».
Et donc, compte de mime. Et donc, soit dit en passant, nous raconte cette l'épreuve du bac, quoi.
L'épreuve du bac.
Quand t'es adolescent et que
ce passage. Alors c'est donc tiré donc de son blog hein, au début. Mmh. Et on va suivre toutes les aventures qu'il a.
Les aventures.
Toutes les histoires. Oui, enfin, c'est des aventures quand même.
Ouais.
Attends, le jour où il neige et tout, qu'il doit aller au lycée et que finalement, ils ont coupé leur massage en bus, du coup, il y va pas, quoi.
On a trop peur pour lui, quoi. Mais il va jamais avoir son bac, mais comment il va faire?
Et le jour où les fils de son iPod, ils s'en mêlent. Qui font ça tout seul dans sa poche.
Ouais.
Il y a du suspense, attends, peut-être qu'un jour, la nuit, il pourrait essayer de l'étrangler.
Mmh, c'est vrai. Bon, c'est drôle, c'est frais, c'est léger.
C'est drôle, c'est frais, c'est léger, voilà.
Peut-être un peu léger, mais c'est aussi parce que notre bac est tellement loin que pour nous, c'est...
Ouais, mais c'est plaisant à lire. Là, franchement, je l'ai lu très très rapidement.
Ça se lit vite. Hein. C'est vite. le format, on va dire entre guillemets shampoing de chez Delcourt, mais c'est chez Macaca. Donc les formats des blogs dessinés hein, en général, ça se lit assez vite. Mais non, moi je me suis bien éclaté. Je me suis dit, oh là là, le bac n'a pas si tant changé que ça. On fait tous semblant de bosser comme des dingues pour nos parents, mais on n'en fout pas une en se disant que de toute façon, 90% des gens qui passent le bac l'ont, et que vu que je ne suis pas dans les 10% de mauvais de ma classe, je l'aurai.
C'est ça, c'est ça. Donc du coup, voilà, donc soit dit en passant, un bon bouquin. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez aussi donc quand même lire de lui Où es-tu, Léopold, qui est l'histoire d'un petit garçon qui est invisible.
Ouais. Qui a 3 tomes, je crois, et le 4e, malheureusement.
3 tomes, ouais.
Voilà.
Qui est chez Dupuis. Après, donc, il a fait aussi Le trésor de l'île Mokoko chez Diantre, Quelle tête en l'air chez Macaca. Et il a fait aussi La Grèce antique à petits pas, donc, il vous a fait des illustrations chez Actes Sud. Et donc, son travail qu'il est en train de faire sur.
Le docteur Moreau. Et sur aussi une série sur deux personnages dont j'ai oublié le nom, dont il parle sur son blog. C'est un album sympathique, moi je trouve. En plus, Macaca est un petit éditeur qui sort plein de petites choses très sympathiques. Moi j'aime bien en général. Je crois que ça doit être fait partie des petits éditeurs indés dont on a le plus parlé au niveau des bouquins. Ouais, tu sais pas ce qu'ils ont sorti, hein, c'est ça?
Ouais, non.
Ils ont sorti Féréus le Fléau.
Ouais, non, je sais pas, c'est fort possible.
Ils ont sorti des Monsieur le Chien, les histoires de Cède. Voilà. Donc, les histoires à dormir debout. Non, bon éditeur. C'est fortement recommandé. C'est peut-être pas dit que vous le trouviez facilement, parce que c'est un petit éditeur de chez votre vendeur habituel, surtout s'il a une enseigne rouge ou s'il a une enseigne couleur moche. La FNAC, hein, c'est une couleur moche. C'est quoi la couleur de...
Couleur caca.
Couleur caca. Voilà.
Ce que fait ta fille à voyant sa couche.
Voilà. Ah ouais, c'est exactement la même couleur.
Marron-jaune.
Ah ouais, non, trop fort. Donc la FNAC a une... Oh. Et par contre, chez votre libraire, il ne les aura peut-être pas en stock, donc commandez-les, franchement, ça vaut le coup. Sinon, le site des éditions chez Macaca, ils les vendent en direct, tu peux leur commander, ça marche très très bien, ils sont très très cool.
Non, puis ils doivent encore en avoir.
Ouais, s'ils n'ont pas, si c'est pas parti au pilon. Online. Je n'ai pas eu le temps de faire le tri parmi les milliers de blogs dessinés que je lis, et je vais donc faire du copinage, même pas trop, parce qu'en fait, on ne la connaît pas tant que ça, hein. C'est illustratrice pour le site de Clem Clé. Alors, Clem Clé, en dehors du fait d'être co-organisatrice du Festival des Colles en Quai des Bulles, dessine et j'ai découvert ça après le festival.
Moi, j'ai découvert ça à la toute fin du festival, c'est-à-dire le soir après que tous les auteurs soient partis et qu'elle dessinait sur un coin d'affiche. Et là, j'ai fait « Ah, mais tiens, peut-être que dans quelques années, la voix des bulles sera obligée de t'interviewer parce que tu feras… » voilà. Et donc, elle dessine.
Et elle dessine vachement bien. Donc, elle a un style graphique très, très, très sympathique. Elle fait des tests assez variés. On voit qu'elle est encore dans des phases d'expérimentation. J'avoue, ça manque un peu de BD pour se faire une idée de ses capacités en termes de narration. Mais en tout cas, en termes de dessin, par exemple, j'aime beaucoup un de ses personnages, qui est la jeune fille avec un poulpe sur la tête. Qui remplace sa chevelure, qui a, d'un point de vue du caractère design, qui est très propre, très classe. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. Alors, je pense qu'elle fait des études de management pour rassurer ses parents, hein, parce que parce que je veux dire, quand on a un style assez aussi propre comme ça, il y a de quoi faire. Elle pourrait bosser dans l'illustration, je pense, assez facilement, voire dans la BD. Mais bon, ça, j'avoue. Je n'ai pas lu de BD pour me faire un avis.
En tout cas, moi j'ai pu voir que elle montrait son book à Troy Grossa et donc du coup ça avait l'air pas mal du tout.
Ouais, son book je l'ai vu vite fait mais j'aimerais bien pouvoir en voir un peu plus.
Mais c'est quoi, il faudrait qu'on la rappelle pour l'interview. Ouais,
pour la harceler. Oh, mettez des BD en ligne qu'on puisse savoir ce que tu fais et en dire beaucoup plus de bien dans notre émission. Voilà, alors là ce qui est rigolo c'est qu'elle sait pas du tout qu'on va
parler d'elle
et que peut-être qu'elle le découvrira jamais parce qu'autant elle a fait semblant de nous écouter.
Et que là elle nous écoutera plus jamais. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. C'était... Non, enfin, en tout cas c'est très joli le travail qu'elle peut faire.
Moi, j'ai été bien... voilà, puis je m'y attendais pas du tout. J'ai une jeune fille qui bosse sur un projet dans une école de management, et je m'attends pas à ce qu'elle dessine, quoi. C'est pas normal.
Puis en plus, voilà, elle ne le vend pas du tout. Hein. Elle nous en a même pas parlé, elle a rien dit.
Ouais, alors qu'elle aurait pu. Voilà. Donc, le très très joli travail de Clem Clay, que je vous recommande. Fin des hostilités pour cette émission. C'était pas mal.
C'était non pas mal, il y en a qui sont vachement jolis quand même.
Ouais, ah ça y est, tu continues à regarder maintenant, monsieur, je rattrape mon retard.
T'es en train d'enregistrer toi encore, c'est ça? Ça c'est juste pour pouvoir faire le bêtisier encore une fois.
Ouais. Merci de nous avoir écoutés, c'était un plaisir de faire cette émission après ces longues pauses sans émission.
Je me suis presque cru en vacances, tu vois.
Ouais.
Pendant quelques semaines, ça m'a permis de me remettre du festival, dis donc.
On va essayer de retrouver un rythme régulier. Alors attendez-vous à quand même quelques changements vis-à-vis de notre organisation. Peut-être qu'Isaac sera un peu plus présent dans les prochaines émissions, on verra.
On essaie de le tarabuster.
De trouver un moyen de le faire venir parce que DJ Isaac, ça, c'est la classe quoi. Et puis quelqu'un pour nous servir à boire pendant qu'on enregistre. Moi, je trouve que c'est quand même cool.
Oui, ou pas, parce que la dernière fois ça a quand même été un peu too much, mais bon.
Ouais. Et donc, non, des cafés, tout ça. Et donc, voilà, du citror, la totale.
Ouais, mais Isaac fait très bien les cocktails.
Ouais. Je pense que voilà, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Facebook. On en a eu quelques-uns que je
vous
dirai
sur
dans la prochaine émission.
Même sur le site du blog aussi, hein, il y en a un qui, enfin, il y a Tio qui arrête quand même. Il fait des posts presque réguliers désormais. Il participe au truc, quoi.
Un grand merci à tous les commentateurs qui nous corrigent, complètent nos dires parce que on n'est pas les dernier pour dire des conneries, ça nous arrive souvent, on est plein de certitudes, ou en tout cas on fait bien semblant d'être sûr de ce qu'on raconte, et des fois on dit des choses qui sont assez énormes, ça nous fait très plaisir quand vous venez nous corriger gentiment, c'est-à-dire que pas quand vous dites « vous êtes trop des cons, vous dites n'importe quoi », là on le prend un peu plus mal en général, mais la plupart du temps vos commentaires sont sympathiques, et donc là on a eu un superbe commentaire pour nous parler de Jane Austen, qui remettait un peu les points sur les i. On s'était renseigné entre temps après, hein, quand même.
Après on s'est aperçu en fait qu'on avait à peu près dit n'importe quoi.
Voilà, n'importe quoi. Jane Austen qui n'a rien à voir avec Joss Whedon. Joss Whedon en reparlera bientôt, sans doute, pour d'autres raisons, genre un film qui vient de sortir au cinéma. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre de partout. On vous aime, on vous adore. C'est le love dans la vie. Ouh.
Oh, okay, c'est papa. Juste pour finir, est-ce que tu pourrais terminer notre petite interview en disant bonjour, je suis Vincent Co et vous écoutez La Voix des Bulles.
Ah, comme si j'étais Bono pour Énergie.
C'est ça, c'est l'idée en fait. On essaye de.
Bonjour, je suis Vincent Co et vous écoutez La Voix des Bulles.
Eh bien, merci beaucoup, Vincent Co.
Si j'avais su que je ferais ça.
C'est le début de la starification en fait.
Voilà.